Christian Douet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la MFR de Bernay. Et Nathalie Larue, vous travaillez également donc dans cette même MFR où vous avez en charge la responsabilité donc du BTS ESF.
Alors ça.
Déjà
bonjour.
La BTS ESF, ça fait déjà beaucoup de lettres. Il faut déjà commencer par nous dire de quoi s'agit-il.
D'accord.
Quelle est la traduction de ces
lettres ? Donc BTS, brevet de technicien supérieur, hein, donc c'est un diplôme donc de bac plus 2 de niveau 3. Et ESF, donc c'est la spécialité de ce BTS, économie sociale familiale.
Vous êtes présent sur le pôle santé et social post-bac dans Format Sarthe, hein, où nous sommes actuellement. Christian Douet, un mot rapide, là, on va évoquer cette section-là.
Oui.
Ce n'est pas la seule qu'il y a sur la MFR. Alors, un mot peut-être pour nous expliquer rapidement ce que sont les MFR. Et par exemple, à Bernay, les champs de formation sur lesquels vous intervenez.
Tout à fait. Donc à la maison familiale de Bernay, nous accueillons les jeunes dès la classe de 4e. On a des 4e, 3e par alternance. C'est vraiment ce qui nous caractérise, c'est l'alternance. Ensuite, nous avons deux sections. Une première section qui est une section agricole avec un bac pro CGEA conduite gestion d'exploitation agricole, donc de futurs agriculteurs, qui peuvent poursuivre ensuite en BTSA AXE, conduite des systèmes d'exploitation. Donc là, ils ont deux statuts possibles, ils peuvent être apprentis ou scolaires. Et puis nous avons également une deuxième section qui est la section service à la personne, économie sociale familiale, avec la terminale bac pro service aux personnes et au territoire. Et puis on vient de l'évoquer à l'instant, le BTS ESF, économie sociale familiale.
Une MFR comme celle de Bernay, cadre que je connais bien puisque c'est pas très loin de chez nous, c'est sur notre pays, de Haute-Sarthe, château, plein air, c'est un lieu sympathique pour aller apprendre.
Tout à fait, c'est un lieu assez exceptionnel qui était tenu par les moines autrefois avec un château, un cloître assez magnifique. On est dans un parc de 5 hectares, donc le cadre est vraiment très 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 agréable pour travailler. Voilà, on ne peut pas trouver mieux.
Ça évidemment, vous n'allez pas nous dire le contraire. Sur cette MFR, vous accueillez combien de jeunes ?
Alors donc, pour cette année scolaire, nous sommes à 268 jeunes en formation. Comme nous sommes par alternance, hein, ce que j'évoquais au tout début, ce qui veut dire qu'une moitié d'entre eux est en l'établissement, pendant qu'une autre moitié est soit en stage, soit en apprentissage.
Le recrutement, c'est des jeunes qui viennent de la Sarthe ou d'un peu plus large ?
Alors, prioritairement de la Sarthe, du Sud.
Quand vous dites prioritairement, ça veut dire que c'est un critère de sélection ?
Non, pas du tout. On accueille des jeunes d'où ils sont, peu importe. Mais c'est principalement de la Sarthe, mais on touche aussi tout l'ouest, nord-ouest de la Mayenne. De la Mayenne. Et puis après, ponctuellement, quelques élèves de l'Orne, de l'Indre-et-Loire, de l'Eure-et-Loire.
Un mot rapide sur les MFR dans le département de la Sarthe, car je ne sais pas si dans le cours de cette rencontre ici, on va pouvoir avoir d'autres MFR. Vous pouvez citer vos collègues rapidement.
Je vais essayer. Il y a cette association, donc je vais essayer de ne pas me tromper. Donc dans le nord du département, la maison familiale de Fier, spécialisée dans les services à la personne Bac Pro. Sur la partie est du département, Nogent-le-Bernard avec un CAPA SMR. À côté, la Ferté-Bernard, spécialisée dans la gestion de la forêt, de la faune, et voilà. Ensuite, on descend, nous avons Verneuil-le-Chétif qui fait de la formation agricole. À côté, la maison familiale, et de la formation horticole, pardon. À côté, nous avons la maison familiale de Laillé, spécialisée en CAPA SMR. J'espère que je n'oublie
personne.
Coulant-sur-Gé, j'allais les oublier. Des collègues avec qui on travaille beaucoup sur le bac pro-sapate, puisque les élèves qui viennent chez nous en terminale ont d'abord fait leur seconde et leur première à Coulant-sur-Gé. Voilà les maisons familiales du département.
Pour les MFR, donc qui sont des structures à caractère privé, il faut le rappeler. Oui. Votre ministère de tutelle, c'est l'agriculture ou l'éducation ?
C'est l'agriculture, c'est le ministère de l'agriculture pour une grosse partie des formations, excepté à Coulant-sur-Gé où le CAP Petite Enfance est un CAP Petite Enfance de l'éducation nationale.
Très bien. Donc voilà, ça nous permet de planter un petit peu le décor. Et maintenant, on va se focaliser sur
Je voulais juste ajouter quand même qu'il faut quand même penser que les MFR sont toutes des associations à but non lucratif et font partie du réseau d'associations familiales.
Oui. Hein ?
C'est important, cette idée-là.
Tout à fait. Mmh. C'était un peu induit dans ce qui avait été...
Maison familiale.
Voilà. Mmh. Alors, la formation, donc, économie sociale familiale. Mmh. De quoi s'agit-il ? On veut former à quel type d'activité dans la société ?
D'accord. Donc, ce sont des jeunes qui vont donc entrer dans un BTS où elles vont pouvoir acquérir et développer des compétences en accompagnement, en animation, en conseil dans les domaines de la vie quotidienne auprès de publics fragilisés. Hein. Donc en fait, c'est quand même professionnels qui vont intervenir.
Public fragilisé.
Alors, auprès des personnes en situation de handicap, par exemple, dans les ESAD, dans les foyers d'hébergement, dans les services d'accompagnement à la vie sociale de ces publics-là, où on va accompagner des familles sur des aspects de vie quotidienne. Ça va être des personnes âgées dans le secteur des services à la personne, par exemple, pour pouvoir faire un peu de la gestion administrative et de l'accueil aussi des publics demandeurs de services à domicile. Ça peut être auprès de familles en difficulté sociale, notamment on les trouve beaucoup, les conseillères en ESF, dans les centres sociaux, où là elles vont être conseillères sociales et où elles accompagneront des familles en difficulté sur des bourses aux vêtements, des bourses aux jouets, des épiceries sociales, etc.
Je peux me permettre d'être méchant tout de suite ?
Allez-y.
Vous dites systématiquement « elles ». Il n'y a pas de île ?
Oui, c'est vrai. Vous avez raison, c'est une déformation.
Alors, est-ce qu'il y a des îles ?
Très peu.
Très peu, hein. Quel est le pourcentage de filles et de garçons ?
C'est le métier des conseillères en ESF, hein, qui est l'année supplémentaire après le BTS. C'est une année complémentaire de formation qu'on fait après le BTS. C'est 99% des femmes.
Ah voilà, 99%.
C'est vraiment, dans le champ des métiers du travail social, celui qui est le plus féminin.
D'accord. Hein,
Une meilleure parité chez les éducateurs spécialisés, par exemple.
Petite question quand même, parce qu'en plus c'est un débat actuellement. Pourquoi il n'y a pas de garçons sur ces formations-là ?
Voilà, traditionnellement, ces formations-là, c'était ce qu'on appelait les formations de ménagères. C'était des formations, c'était des CAP, je crois.
Qui relevaient de ce qu'on appelle les écoles
CAP
ménagères.
Des écoles ménagères.
Alors, ça parlera aux plus anciens, mais pas
aux
plus jeunes.
Voilà, donc ça, c'est les années 50-60, ouais. Où c'était vraiment l'idée, c'était de former les femmes, notamment dans un contexte d'exode rural, former les femmes aux nouvelles technologies dans la maison, à s'approprier la modernité, à être ce qu'on appelait des superfées du logis, quoi. Hein. Et puis, c'est dans les années 70, dans le cadre de problématiques plus sociales, qu'on a transformé, en fait, ces écoles ménagères, et où là, on a créé un BTS, économie sociale familiale. Et ça a mis beaucoup de temps pour que ces professionnels trouvent leur place et leur identité en tant que travailleurs sociaux.
Alors, au niveau des travailleurs sociaux, donc, la plupart des travailleurs sociaux que les gens connaissent sont ceux qui sont sur le terrain, qui sont par exemple à l'aide des personnes dépendantes, par exemple à domicile. C'est un métier de conseiller.
Voilà, conseillère. C'est conseillère en ESF.
Alors, ça s'organise comment la différence entre ces deux métiers une fois qu'on est sur le terrain, dans les entreprises, que ce soit donc celle que vous avez citée tout à l'heure ou...
Vous voulez dire la différence sociale. Entre voilà, quoi et quoi ?
La différence entre, on va dire, la personne qui est sur l'assistance directe, l'aide à domicile en quelque sorte,
d'accord.
Et puis la conseillère.
Donc prenons par exemple l'exemple de l'aide à domicile. Si effectivement vous allez avoir des intervenants à domicile qui vont aider la personne à faire ses courses, l'aider à faire à manger, à faire sa toilette, etc. Elles vont être plutôt à la gestion, c'est-à-dire que leur travail, ça va être de recruter justement ces intervenants à domicile, d'organiser le travail de ces intervenantes avec les plannings, les remplacements, d'évaluer le travail de ces intervenantes et d'évaluer la satisfaction en fait de l'usager, et puis éventuellement aussi de penser à comment former et qualifier ce personnel là donc c'est aussi tout le suivi du personnel, et puis c'est aussi recueillir la demande et les besoins des usagers et établir avec eux en fait un plan d'aide. Donc ce sont des personnes qui sont plus en fait sur de la gestion des ressources humaines, de la gestion administrative, puisqu'elles
instruisent... C'est un métier administratif, en fait.
Pas forcément, parce qu'il y a quand même du terrain.
Il y a du contact, ça se travaille,
Alors ça, c'est l'exemple du travail d'une conseillère en ESF, éventuellement comme chargée de secteur en aide à domicile. Mais l'intérêt, justement, de l'ESF, c'est que c'est très, très varié au niveau des publics, des structures dans lesquelles on les trouve.
Il n'y a pas de spécialisation au départ, plutôt avec des personnes âgées, plutôt avec des familles en difficulté, ou plutôt avec des personnes dépendantes, âgées.
C'est très, très varié. On trouve des conseillères en ESF sur tous les terrains. On va les trouver pour, par exemple, l'accompagnement des publics qui dépendent du RSA. Mmh. Des minima sociaux, on les trouve dans le service social du Conseil Général, où là, elles vont faire de l'accompagnement budgétaire ou de l'accompagnement à la vie quotidienne. On les trouve dans les services d'accompagnement à la vie sociale de personnes en situation de handicap qu'il faut accompagner dans leur logement parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'autonomie. on les trouve dans, encore une fois, dans les centres sociaux pour accompagner les familles sur la parentalité, par exemple. Et on les trouve dans les services à la personne aussi.
Alors, c'est une formation donc qui doit conduire à des connaissances techniques, pratiques, administratives et à des compétences humaines en termes de relationnel, de communication. Vous procédez comment ? C'est tout en cours ? C'est par alternance ?
Non, voilà. Alors, la particularité, Monsieur Doué l'a dit, hein, les maisons familiales rurales sont un petit peu... On est les précurseurs en la matière. Hein. C'est
de l'alternance.
Les MF qui ont inventé l'alternance, hein, dans les années 30, hein, déjà. Donc, voilà. Et donc, du coup, c'est une formation qui est en alternance, c'est-à-dire qui alterne 15 jours en entreprise et 15 jours en formation. Hein. Donc, si un jeune décide, par exemple, de faire un BTS économie sociale et familiale dans l'éducation nationale, ce qu'il peut très bien faire, hein, le plus proche qu'il fait, c'est le lycée Réaumur, à Laval. Hein, et donc, eux, ils auront 1700 heures de cours et 13 semaines de stage. Nous, à l'inverse, on n'aura que 1200 heures de cours, mais on aura potentiellement jusqu'à 36 semaines, 18 et 18, d'insertion professionnelle sur le terrain.
C'est compliqué l'alternance, c'est compliqué de rentrer finalement sur le milieu professionnel pour des jeunes.
C'est ce qu'ils souhaitent au départ, ça peut surprendre un peu, mais les jeunes veulent être confrontés à la réalité et veulent, je crois, montrer aux professionnels qu'ils ont des compétences, qu'ils ont envie de bien faire. Et très vite, si la motivation est là, et c'est souvent le cas, ils sont très appréciés et ils s'intègrent très très facilement dans les structures. Et il faut arriver par contre avec eux à organiser leur travail pour qu'ils ne soient pas complètement dévorés par le travail professionnel et que la partie, je dirais, formation ne soit pas oubliée.
Est-ce que quelque part le fait d'avoir été formé par alternance, ça renforce le CV ? La fameuse question, qu'est-ce que vous avez comme expérience professionnelle ?
Absolument. Ah oui, alors ça c'est quelque chose, moi depuis des années que je le fais et qui ai pu faire justement des bilans et des évaluations post-BTS. C'est que le fait d'avoir été immergé dans une entreprise pendant 2 ans pour son BTS, indéniablement, c'est un plus dans le CV par rapport à un jeune qui l'aurait fait plus en scolaire, en formation plus initiale, avec moins d'immersion en entreprise. Oui, c'est un plus. Oui.
Petite idée sur le nombre de places que vous pouvez offrir par année dans cette formation, donc sur l'économie sociale familiale.
Oui, ben, a priori, on a...
On n'a pas de limite.
Bon, si vous voulez,
la limite. Si, la limite quand même, c'est la limite du fonctionnement d'une classe, une vingtaine de jeunes par année. Donc voilà le chiffre idéal, avec un maximum de 25 jeunes. Donc c'est la classe idéale. Et j'insiste en effet sur la question précédente, sur l'intérêt de la formation par alternance sur le CV. Le jeune aura été confronté au milieu du travail avec ses exigences en termes d'horaire, de travail en équipe. Et c'est vraiment très très apprécié par les professionnels ensuite lorsqu'ils se présentent pour un travail.
Oui, puis il aura eu des validations de ses compétences, hein, parce qu'il y a quand même des livrets de stage.
Voilà.
Il y a une évaluation très concrète, c'est-à-dire que travailler en alternance, c'est travailler à trois.
Hein. Ça se fait de façon régulière aussi,
cette
reconnaissance
des
compétences.
Il y a un tuteur, le jeune et le centre de formation.
Les compétences sont évaluées donc pas en termes final, en termes final seulement, ou alors progressivement.
Y a une progression, mais c'est surtout qu'au départ, en fait, il y a des objectifs de stage qui sont fixés, donc il y a un projet de stage, et ensuite, du coup, au fur et à mesure de la mise en œuvre de ces objectifs, bien le tuteur, on évalue avec le tuteur, les points forts, les limites, les axes d'amélioration,
C'est... Une dernière question pour Christian Doué. Je sais que votre établissement sur les formations à caractère agricole est très orienté vers la découverte de ce qui se fait dans les autres pays européens ou même au-delà. Est-ce que dans des branches de ce type, il y a cette ouverture vers d'autres pays ?
Pour l'instant, ça n'est pas le cas pour le BTS-ESF, mais on y réfléchit. Il existe en effet des choses déjà importantes. Nos élèves, par exemple, à partir de la 3e, vont faire un voyage d'études en Belgique, qui les prépare ensuite en terminale bac pro pour effectuer un stage de 3 semaines dans ce même pays. La rentrée prochaine, cette fois-ci, c'est les terminales services aux personnes et territoires, qui eux partiront 3 semaines en Roumanie en stage. Ce n'est pas un voyage d'études, c'est un stage. Les BTS, eux, on leur demande de se prendre un peu plus en charge. Et eux, de manière individuelle, font des stages à l'étranger et là sortent de l'Europe, puisque nos jeunes partent au Canada, partent au Brésil, par exemple, pour effectuer des stages.
Ça c'est en BTS agricole. Hein.
En agricole, hein, voilà.
Oui, mais j'ai dit les banques tout à l'heure, les SAPAT aussi maintenant.
Les SAPAT vont aller en Roumanie.
En Roumanie. Et donc, il est clair que les BTS ESF eux aussi, on va essayer de construire quelque chose dans ce cadre-là.
Bien sûr. Et voilà. Sur les pays en Angleterre, par exemple.
Alors, il y a un voyage d'études
prévu pour l'instant. Prévu pour eux en Angleterre.
Mais l'idéal, c'est d'arriver à l'aspect stage. On dépasse le simple voyage d'études, mais qu'on en arrive à l'aspect stage.
Absolument, on a bien compris. Donc, sur ces différentes formations qui sont dispensées au niveau de la MFR de Bernay, on vous remercie Christian Douet, qui est directeur de cette MFR de Bernay. On vous remercie Nathalie Larue, qui est responsable de ce BTS économie sociale familiale que vous avez fait découvrir dans tous les détails et dans les objectifs. On vous remercie d'être venu jusqu'ici. Vous êtes présent à Formasart dans le cadre du pôle social, santé, post-bac. Merci à vous.
Merci.